Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Menachot, page 31, Daf Lamed Aleph. Bonne écoute et bon limoud.
Ashida, l'enseignement de Oula se rapporte à l'opinion de Rabbi Shimon Chuzuri concernant l'armoire. D'Etnan, car il est enseigné dans une Mishnah dans Masechet Kelim, Perek Yutret, Mishnah Aleph. Il s'agit dans cette Mishnah de la loi selon laquelle un ustensile de bois qui est trop lourd pour être porté lorsqu'il est plein n'est pas susceptible de devenir impur. Les Chachamim ont évalué qu'il s'agit d'un ustensile d'un volume de 2/3 d'un mètre cube. C'est un volume équivalent à 40 CA. Mais cela uniquement à la condition où cet ustensile est construit de telle manière à ce que l'on peut y entasser jusqu'à 2 cours de solide, soit environ 1 mètre cube. La Mishnah va maintenant expliquer comment est-ce qu'on mesure un ustensile de bois, par exemple une armoire. Alors la Mishnah dit, Hashida, l'armoire, Bet Shamayomrim Nimdedet Mibifnim, on la mesure que de l'intérieur. Donc pour déterminer quel est l'ustensile qui n'est pas susceptible de devenir impur, c'est uniquement celui qui a un volume net de 2/3 d'un mètre cube, sans compter les parois, ou Bet Hillelomrim Mibachutz, tandis que Bet Hillel disent qu'on mesure cet ustensile, donc l'armoire en question, de l'extérieur, même les parois rentrent aussi en ligne de compte. Ou modim elu veelu. Cependant, ces deux, soit Bet Shammai et soit Bet Hillel, sont d'accord, chez Enovi Araglaim veovi halevas vezim nimdad, que ni l'épaisseur des pieds ni l'épaisseur du rebord au-dessus de l'armoire ne sont mesurés, donc ne sont pris en compte pour considérer que cet ustensile n'est pas susceptible de devenir impur, parce qu'il a un volume de 2/3 d'un mètre cube. Rabbi aussi Omer, au contraire, Modim, soit Bet Shammai, soit Bet Hillel sont d'accord, comme explique la Shita Mekoubetset, il n'y a donc pas du tout de discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, ils sont tous d'accord que non seulement on mesure aussi les parois de l'ustensile pour déterminer quel en est le volume, mais en plus, chez Ovia Raglaim et Ovia Levas Vezim Nimdad, que l'épaisseur des pieds et l'épaisseur du rebord au-dessus de l'armoire sont aussi mesurés pour déterminer quel est le volume de cet ustensile. Cependant, ou benehen en nimdad, l'espace qui se trouve entre les pieds n'est pas mesuré pour déterminer quel est le volume de cet ustensile. Rabbi Shimon Chezuri Omer, imayu raglaim gevot tefach, si les pieds sont d'une hauteur d'un tefach, soit environ 10 cm, en benehen nimdad, l'espace qui se trouve entre les pieds n'est pas mesuré, donc n'est pas pris en ligne de compte pour déterminer quel est le volume de cet ustensile, ve'imlav, mais sinon, si les pieds sont d'une hauteur de moins d'un tefar, benehem nimdad, l'espace qui se trouve entre les pieds est aussi mesuré, donc est aussi inclus dans le volume de cet ustensile. Selon Rapapa, c'est sur cette Mishnah que Oula aurait dit que l'alakha est comme Rabbi Shimon Chezuri. Rav Nachman Bar Yitzhak Amar Ayayin, tandis que Rav Nachman Bar Yitzhak dit que Oula a parlé à propos de l'opinion de Rabbi Shimon Chezuri concernant le vin, d'Etnan, car il est enseigné dans une Mishnah dans Masechet Taharot, Perek Gimel, Mishnah Bet, concernant les lois de l'impureté. Pour comprendre cette Mishnah, nous ferons une petite introduction. Il existe en général 2 types d'impureté, celle que l'on appelle source d'impureté, abatuma, comme un reptile mort ou le cadavre animal, etc., qui sont susceptibles même de rendre un homme impur. Le deuxième type d'impureté est ce que l'on appelle Vladatuma, soit impureté secondaire, qui existe au premier degré, second degré, troisième degré, etc., selon les cas. Donc, si un homme touche un reptile mort, par exemple, il devient ce que l'on appelle Rishon Latuma, c'est-à-dire, il est atteint d'une impureté secondaire de premier degré. S'il touche à son tour de la nourriture, cette nourriture devient Sheni Latuma, soit impureté secondaire du second degré. En ce qui concerne la nourriture profane, il n'existe pas d'impureté plus légère. En ce qui concerne la Touma, par contre, il peut arriver jusqu'à Shlishi la Touma, c'est-à-dire impureté secondaire du troisième degré. L'impureté allant toujours en s'affaiblissant, ce qui est impur au premier degré transmettra l'impureté du second degré, ce qui est impur au second degré transmettra l'impureté au troisième degré. Il existe aussi une règle générale selon laquelle de la nourriture ne peut jamais atteindre le stade de Avatuma ou source d'impureté, mais au maximum, elle pourra atteindre le stade d'impureté de Rishon Latuma, c'est-à-dire impureté secondaire du premier degré. Parce que les liquides sont plus facilement susceptibles de devenir impurs, parce qu'ils ne nécessitent pas de préparation particulière pour être susceptibles de devenir impurs, les Chachamim ont décrété que tout liquide qui rentrerait en contact avec une impureté qui peut rendre impur de la Touma serait d'office considéré comme étant riche en la Touma, soit impureté secondaire du premier degré. Les sept liquides concernés sont les sept liquides que l'on peut mémoriser à l'aide de la phrase Yad Shachat Dam. Le Yud représente Yahin, le vin. Le Daled représente Dvash, le miel de date. Le Shin représente Shemen, l'huile. Le Chet représente Chalav, le lait. Le Tet représente Tal, la rosée. Le Dalet représente Dam, le sang. Le Mem représente Maïm, l'eau. Dans la Mishnah, il est question à savoir est-ce que tous les sept liquides que nous avons mentionnés sont concernés par ce décret des Chachamim ou non. Or la Mishnah dit, Rabbi Meir Omer, Shemen, Trila, Leolam. L'huile devient toujours impure au stade de Rishon, c'est-à-dire impureté secondaire du premier degré. Vachachamim Omrim, Afadvash, le miel de date aussi devient toujours Rishon, c'est-à-dire impureté secondaire du premier degré. Rabbi Shimon Chezuri Omer, Afayayin, même le vin aussi, donc non seulement l'huile et le miel, mais même le vin aussi devient toujours impur au stade de Rishon, c'est-à-dire impureté secondaire du premier degré. Dans cette Mishnah, il n'est pas question d'eau, parce que c'est essentiellement sur l'eau que ce décret a été émis. En tout cas, puisque Rabbi Shimon Chezuri dit en dernier, même le vin, donc non seulement l'huile et le miel, il vient donc ajouter sur les opinions précédentes. Nous pouvons donc déduire de là que Miklal de Tanakama Savar, donc le premier auteur de la Mishnah pense, Yain Lo, que le vin n'est pas inclus dans ce décret. Alors que logiquement, personne ne devrait être en désaccord avec Rabbi Shimon Chezuri sur ce point, puisque le vin est plus facilement considéré comme étant un liquide que l'huile ou le miel. La Gemara corrige. Emma, plutôt nous dirons que c'est ainsi qu'il faut lire dans la Mishnah, Rabbi Shimon Chezuri Omer, Yain. Ce n'est que le vin qui est concerné par ce décret, et non pas l'huile ou le miel. Et là-dessus, selon Rav Nachman Bar Yitzhak, Oula aurait dit que la halakha est comme Rabbi Shimon Chezuri. Tanya, il est enseigné dans une braïta, Amar Rabbi Shimon Chezuri, Pamachat nitarev li tevel bechulin, une fois du tevel qui sont des fruits dont les prélèvements réglementaires n'ont pas été effectués, donc du tevel qui m'appartenait s'est mélangé avec du chulin qui sont des fruits dont les prélèvements ont été effectués. Dès lors, on ne peut plus effectuer les prélèvements parce que si l'on effectue un prélèvement de ce mélange, il est possible que l'on prenne des fruits dont on a déjà prélevé le prélèvement, donc qui sont exemptés de cette obligation et ne peuvent pas servir de prélèvement sur des fruits dont le prélèvement n'a pas été effectué. Comme l'explique la Shita Mukubetset, il n'a pas voulu avoir recours à un mélange homogène, comme nous l'avons vu que telle est son opinion dans le DAF précédent, parce que s'il l'avait fait, il aurait dû effectuer des prélèvements correspondant à la totalité du mélange. Ou bati veshalti de Rabbi Tarfon, je suis venu et j'ai demandé à Rabbi Tarfon quoi faire. Amarli m'a répondu, l'er kach lecha min hashuk, va acheter des fruits identiques du marché chez des ignorants. Il s'agira donc des fruits de maïs sur lesquels les chachamim ont imposé une obligation de prélever le maaser, veaser alav, et effectue les prélèvements correspondant au tevel qui s'est mélangé dans le choulin. Alors la Gemara explique, Kassabar, Rabbi Tarfon pense, de Oraita Beruba Batel, Minatora, lorsque quelque chose d'interdit se mélange à quelque chose de permis, ce qui est interdit est annulé si ce qui est permis est majoritaire. Donc en fait, Minatora, si le choulin est majoritaire, il serait permis de consommer la totalité du mélange. Cependant, les Chachamim ont quand même imposé une obligation de prélèvement, même dans le cas où le choulin est majoritaire. Et d'autre part, nous estimons que la majorité des ignorants prélèvent le maaser. Donc en fait, Minatora, il n'y a pas d'obligation de prélever le maaser sur des fruits qu'on a achetés chez un ignorant. Mais plutôt, comme nous l'avons mentionné dans le date précédent, c'est les Chachamim qui l'ont décrété. Finalement, il se trouve donc que cette personne prélève de fruits qui sont exemptés de l'obligation de prélever le maaser Minatora sur d'autres fruits qui sont aussi exemptés Minatora du prélèvement du maaser. Alors la Gemara demande, Velemale, Rabbi Tarfon n'avait qu'à lui dire, L'erkach mina oved kochabim va acheter des fruits qui ont poussé chez un non-juif qui sont aussi exemptés de l'obligation du prélèvement du maaser. L'agma répond qu'à savoir, Rabbi Tarfon pense, en kinyan l'oved kochabim beret Israël, le goy n'a pas le pouvoir d'acquérir un terrain dans Eret Israël, le afkia miyad maaser, pour exempter l'obligation du prélèvement du maaser. Donc finalement, mina Torah, même les fruits qui ont poussé dans un terrain appartenant à un goy sont concernés par l'obligation du prélèvement du maaser. Il n'aurait donc pas pu en acheter pour prélever le maaser sur le tevel qui s'est mélangé. Cela parce que Bahavale Minachiyu Valaptour, s'il l'avait fait, il aurait prélevé du maaser à partir de fruits qui sont concernés Minatora par l'obligation du prélèvement du maaser sur des fruits qui sont Minatora exemptés de ce prélèvement. Ika de Amre, il y a une deuxième version de cette braïta. Amarle, Rabbi Tarfon lui a répondu, l'erkar mina oved kochabim va acheter des fruits qui ont poussé dans un terrain appartenant à un goy, kasavar. Alors l'agmar explique, c'est parce qu'il pense, yesh kinyan l'oved kochabim, beret Israël, un goy a le pouvoir d'acquérir un terrain dans Eret Israël, l'afkia miyad maaser, pour exempter sa production de l'obligation du prélèvement du maaser. Finalement, vehavale minaptur alaptur, il se trouve qu'il prélève de fruits qui sont exemptés minatora du prélèvement du maaser sur d'autres fruits qui sont exemptés minatora du prélèvement du maaser, comme nous l'avons expliqué. Alagmar demande vele male. Rabbi Tarfon n'avait qu'à lui dire car meachouk achète des fruits du marché chez un ignorant. Pourquoi a-t-il choisi la solution d'acheter des fruits qui ont poussé chez un goy? Alagmar répond kasavar en rov ameharet maasrin. C'est parce que Rabbi Tarfon pense que nous ne considérons pas que la majorité des ignorants prélèvent le maaser. Finalement, il s'agit d'un doute minatora. Il se peut donc qu'il achète des fruits qui sont concernés minatora par l'obligation du prélèvement du maaser. Il n'aurait pas pu les utiliser donc pour les prélèvements du tevel qui s'est mélangé dans du choulin. Shalach le Rav Yemar bar Shalmia le Rav Papa. Rav Yemar bar Shalmia a envoyé la question suivante à Rav Papa. Had amar ravin bar chinena amaroula amar rabbi chanina. Halakha que Rabbi Shimon Shezuri, que la halakha est comme Rabbi Shimon Shezuri, velo od, et non seulement cela, et la kol makom sheshana Rabbi Shimon Shezuri halakha kemoto. Mais partout où Rabbi Shimon Shezuri a enseigné son opinion, la halakha est comme lui. Alors la question se pose, av benita revle tevel bechulin, est-ce que la halakha sera comme Rabbi Shimon Shezuri, même dans ce cas de tevel qui s'est mélangé avec du chulin? Amarle, Rav Papa lui a répondu, in oui, la halakha est comme Rabbi Shimon Shezuri, même dans ce cas. Il est donc possible, selon les versions, soit d'acheter des fruits chez un ignorant, soit des fruits qui ont poussé dans un terrain appartenant à un goy. Amar Ravashi, Amar li Marzutra. Marzutra m'a dit la chose suivante. Kasheba Rabbi Hanina Misura. Rabbi Hanina Misura avait la question suivante sur cet enseignement. Donc sur cette question que Rabbi Yemar Bar Shalmia a posée à Rav Papa. Pshita, c'est évident que dans ce cas aussi, la halakha se crée comme Rabbi Shimon Shezuri. Pourquoi s'est-il posé la question?
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page Adaf Lamed Alef Amud Bet. Mika Amar Bemishnatenu, est-ce que Oula a précisé que la halakha serait comme Rabbi Shimon Shezuri uniquement lorsque son opinion a été enseignée dans une Mishnah? Kol makom sheshana ka Amar. Partout où Rabbi Shimon Shezuri a donné son opinion, la halakha sera comme lui, même si son opinion a été ramenée dans une braïta. Donc finalement, pourquoi Rabbi Yemar Bar Shalmia s'est posé une question à ce sujet? La Gemara reste sans réponse à cette question. Amar Rav Zeira, Amar Rav Hananel, Amar Rav. Kera Haba Beshnei Shitin, dans le cas d'une déchirure dans le parchemin du Sefer Torah, si celle-ci entame deux lignes de l'écriture du Sefer Torah, Yitpor, il sera permis de recoudre et de réparer cette déchirure Béchaloche, mais si cette déchirure atteint trois lignes de l'écriture du Sefer Torah, Alitfor, il n'aura pas le droit de recoudre cette déchirure, donc de la réparer, parce que la réparation serait trop apparente. Par conséquent, il devra retirer cette pièce de parchemin pour la remplacer par une autre. Amar le Rabazuti le Ravashi, Achi Amar Rabbi Yirmiya Midifti Mishmeh Derava. Had Amrinan Beshalosh Alitfor. Lorsqu'on dit que si la déchirure entame trois lignes de l'écriture du Sefer Torah, il n'a pas le droit de recoudre cette déchirure. Il doit donc remplacer cette pièce de parchemin. Lo Amaran, nous ne le disons que Ela Be'atikta, uniquement s'il s'agit d'un vieux parchemin ou d'un vieux Sefer Torah. Dans ce cas, la réparation sera trop apparente. Il faudra donc remplacer la pièce de parchemin. Aval Chadetata, mais s'il s'agit d'un nouveau parchemin, d'un nouveau Sefer Torah, l'etlanba, ça ne fait rien. Il sera donc permis de réparer cette déchirure, même si elle entame trois lignes de l'écriture du Sefer Torah. La Gemara explique, Velo Atikta Atikta Mamash, lorsqu'on parle d'un vieux parchemin, on ne parle pas réellement d'un vieux parchemin, Velo Chadetata Chadetata Mamash, et lorsqu'on parle d'un nouveau parchemin, on ne parle pas réellement d'un nouveau parchemin, et là, mais plutôt c'est cela que l'on veut dire. Ha Dolo Afitsan. Ici, c'est-à-dire ce que l'on appelle un nouveau parchemin, c'est le cas d'un parchemin qui n'a pas été traité avec de la noix de gal. Le parchemin est donc blanc. La réparation ne sera pas trop visible. C'est pour cela donc que même si plus de trois lignes ont été atteintes, quand même, il est possible de réparer le Sefer Torah. Ha Deafitsan. Mais ici, ce que l'on appelle un vieux parchemin, c'est en fait un parchemin qui a été traité avec de la noix de gal. Le parchemin est donc plus foncé ou noir. La réparation sera trop visible et c'est pour cela donc qu'il faudra changer le morceau de parchemin. Et quand ces choses sont dites, qu'on peut coudre une déchirure begidim uniquement si on le coud avec des nerfs à valbegardine, mais avec des fils de couture, l'eau, non, il est interdit de réparer le Sefer Torah. En effet, la couture d'un Sefer Torah ne peut se faire qu'avec les nerfs provenant d'un animal. Si la déchirure se trouve entre deux colonnes d'un Sefer Torah, dans le cas où cette déchirure atteindrait ou dépasserait trois lignes de l'écriture du Sefer Torah, si elle avait été à l'emplacement d'une écriture, ou bien Ben Shita le Shita, si cette déchirure se trouve dans le sens de la largeur entre les lignes du Sefer Torah, Mai, quelle est la halakha? Est-il possible de réparer ces déchirures ou non? La Gemara répond, Tekou, c'est une question qui reste sans réponse, Eliyahu HaNavi répondra. Amar Rav Zeiri, Amar Rav Hananel, Amar Rav, Mezouza Shekatva, Shtaim Shtaim, une mezouza qui a été écrite sous forme de lignes de deux mots chacune, Kshera, elle sera kasher. La Gemara demande, Ibaya Lehu, les Chachamim se sont posé la question suivante. Shtaim veshalosh veachat mahu. Si la mezouza a été écrite avec des lignes irrégulières, de manière à ce que la première était de deux mots, celle d'en dessous de trois mots, et la troisième de un seul mot, mahu, quelle est la halakha? Est-ce que cette mezouza sera kasher ou non? La Gemara répond, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, kol sheken, à plus forte raison que cette mezouza sera kasher. Donc si déjà nous disons que celle qui a été écrite avec des lignes de deux mots chacune est cachère, à plus forte raison que celle dont l'écriture est irrégulière, avec des lignes de deux, puis de trois, puis de une, elle sera cachère, et cela parce que chez Asa'a Keshira, parce qu'il se trouve qu'elle a été écrite sous forme de cantique. En effet, tous les cantiques écrits dans la Torah, notamment celui qui a été chanté après la traversée de la mer Rouge, sont écrits, si l'on peut dire, de manière irrégulière. Dans la première ligne, il y a quelques mots au début de la ligne et quelques mots à la fin de la ligne. La ligne suivante est composée de un mot, puis un espace vide, puis quelques mots, puis encore un espace et un mot à la fin de la ligne. Puis de nouveau, quelques mots au début de la ligne, un espace vide, puis quelques mots à la fin de la ligne. Finalement, en regardant le début ou la fin de chaque ligne, cela paraît irrégulier. Puisque cette écriture est valable, une mezouza écrite de cette manière sera aussi valable. La Gemara demande, Métivé, on a opposé à cela une braïta qui dit Asa'a Keshira, s'il l'a écrite à la manière d'un cantique, O Shira Kemota, ou bien s'il a écrit le cantique à sa manière, c'est-à-dire d'une écriture simple, sans espace, psoula, cette écriture est pasoul. La Gemara comprend qu'il s'agit ici de la mezouza. La braïta dirait donc que si l'on écrit une mezouza à la manière d'un cantique, ou bien un cantique à la manière d'une mezouza, c'est-à-dire sans espace au milieu, ces deux seront pas saouls. Contrairement à ce que nous avons dit auparavant, Agma répond, Kitania Ahi, de quoi parle cette braïta? Be Sefer Torah. La braïta parle d'un Sefer Torah. Ce qu'elle veut dire donc, si le Sefer Torah a été écrit à la manière d'un cantique, ou bien le cantique a été écrit à la manière d'un Sefer Torah, c'est-à-dire sans espace, le Sefer Torah ou le cantique sera donc pasoul. Itmar Nami, il a été effectivement dit un enseignement au nom d'Amoraïm. Amar Rabba Barbar Hana Amar Rabbi Yochanan. Vamrela, il y a une deuxième version qui dit que c'est Amar Rav Acha Barbar Hana Amar Rabbi Yochanan. Mezuzah Sha'asa'a Shtaim Shalosh Vachat Kshera. Une mezuzah que l'on a écrite de manière à ce que dans la première ligne il y a deux mots, dans la seconde trois mots, dans la troisième un mot, elle sera kasher. Ubilvad Sheloya Asena Kekuba. Une écriture irrégulière sera acceptée uniquement à la condition qu'il ne l'écrive pas comme une tente, c'est-à-dire à la manière d'un triangle avec la pointe en haut. Autrement dit, il sera interdit d'écrire la mezouza de manière à avoir la première ligne d'un mot, la seconde de deux mots, la troisième de trois mots, ou bilvad sheloya senah kezanav, et aussi à la condition qu'il ne l'écrive pas comme une queue, c'est-à-dire un triangle avec la tête en bas. Autrement dit, il sera interdit aussi de l'écrire de manière à avoir une première ligne de trois mots, une seconde de deux mots et la troisième de un mot. Amar Rav Chisda Al Haaretz Beshita Acharona. Les derniers mots de la mezouza qui sont Al Haaretz sur la terre doivent être écrits dans la dernière ligne. Autrement dit, il n'y a que ces deux mots dans la dernière ligne. Ika Damre, il y a une version qui dit Besof Shita, ces deux derniers mots seront écrits à la fin de la ligne. Et Ika Damre, il y a une autre version qui dit Betrilat Shita, ces deux derniers mots seront écrits au début de la ligne. Alors la Gemara explique Manda Amar Besof Shita. Celui qui dit que les termes de Al-Haaretz sur la terre seront écrits à la fin de la ligne, c'est parce qu'en fait, le dernier passouk de la mezouza dit « Afin que vos jours se multiplient, etc., autant comme les jours du ciel sur la terre. » C'est-à-dire, autant que le ciel est éloigné que la terre. Alors, le premier avis qui dit que les termes de Al-Haaretz seront écrits à la fin de la ligne, c'est en se rapportant au passouk dans Tehilim Kuf Gimel qui dit « Kikvoa Shamaim Al-Haaretz » De la même manière que le ciel est élevé au-dessus de la terre, en là aussi, les termes de Al-Haaretz seront écrits en dessous du terme Hashamaim, le ciel, pour illustrer justement cette distance qui sépare le ciel de la terre en hauteur. Uman de'amar betrilat shita, tandis que l'avis qui dit que les termes de Al-Haaretz seront écrits au début de la ligne, c'est justement pour les éloigner l'un de l'autre, qui écrit demerachaka Hashamaim me'aretz, pour illustrer justement la distance qui sépare le ciel de la terre. Et pour dire donc, comme nous l'avons dit auparavant, que vos jours se multiplient autant que la distance qui sépare le ciel de la terre. Nous avons fini ici le shiur de Masechet Menachot Daf Lamed Aleph. Nous commençons le shiur de Masechet Menachot Daf Lamed Bet. Nous commençons Daf Lamed Aleph Amud Bet à la quatrième ligne du bas de la page. Amar Rabbi Chelbo, Chazina Leh Le Ravuna. J'ai vu que Ravuna, lorsqu'il s'apprêtait à fixer la mezouza à sa porte, de karichla me'echad klapeshema, il roulait la mezouza à partir du mot de echad en direction de shema, autrement dit, de la fin vers le début, ve'ose parashiotea stumot, et en plus, il écrivait les paragraphes de la mezouza de manière à ce qu'elle soit considérée comme étant fermée, c'est-à-dire, il existe deux types de paragraphes dans le Sefer Torah. Il existe celle que l'on appelle Ptucha, ouverte. C'est lorsque le paragraphe se termine au milieu d'une ligne et le nouveau paragraphe commence dans la ligne suivante. Il existe aussi un paragraphe Stuma, fermé, où le paragraphe se termine au milieu de la ligne, mais le paragraphe suivant reprend dans la même ligne après un espace libre. Donc, ce que Ravuna faisait, c'est qu'il écrivait les deux paragraphes de la mezouza. Il s'agit du paragraphe de Shema et celui de Ve'ayim Shamoa, qui d'ailleurs, dans la Torah, sont des paragraphes fermés. Il les a écrits aussi dans la mezouza de manière à ce qu'il s'agisse de paragraphes fermés. C'est-à-dire, lorsqu'il a terminé le premier paragraphe de Shema, il a repris le paragraphe suivant, Ve'ayim Shamoa, dans la même ligne, après avoir laissé un espace. Metive, on a opposé à cela une braïta. La braïta dit, Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Meir haya kotva al dur sustus. Rabbi Meir avait l'habitude d'écrire la mezouza sur du parchemin appelé dursustus. C'est lorsque l'épaisseur de la peau de l'animal a été coupée en deux avant d'être tannée en parchemin. La partie extérieure sur laquelle il y avait eu les poils de l'animal s'appelle claf. La partie intérieure qui était en contact avec la chair de l'animal est appelée dursustus. Comme nous le verrons par la suite, en employant l'un de ces deux types de parchemin, il fallait écrire sur la face de la coupure. Donc, lorsqu'il s'agit du dursustus, il faut écrire sur la face extérieure, tandis que lorsqu'il s'agit du claf, il fallait écrire sur la face intérieure. En tout cas, donc, Rabbi Meir écrivait la mezouza sur du dursustus, qui est la moitié inférieure de la peau, kemin daf, et en plus, il écrivait la mezouza sous forme de colonne, comme on l'écrit dans un Sefer Torah, qui est longue et étroite.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.